les branches, ce qui m'élève. Une branche est la partie du houppier, plusieurs fois subdivisée, jusqu'aux rameaux et brindilles, qui dérivent du tronc et portent les organes photosynthétiques de l'arbre. La branche maîtresse, ou branche charpentière, est une branche émanant du tronc et soutenant une partie du houppier. Chez la plupart des espèces et familles d'arbres, les branches ont une forme, couleur et structure d'écorce propre. Comme sur le tronc, l'écorce évolue, en changeant notamment de couleur et de texture avec l'âge de la branche. Les arbres se débarrassent de leurs branches, devenues inutiles ou situées dans une zone manquant de lumière, par un phénomène naturel dit d'auto-élagage. Tout au long de la vie d'un arbre, des branches mortes tombent ainsi au sol, sont consommées et dégradées par des communautés saprophylophages. Elles constituent peu à peu l'humus forestier. Cette section sera destinée à ajouter quelques branches à notre tronc. René Vivien. Les branches des arbres semblaient des pitons immobiles. Les lianes s'enroulaient comme des serpents verts. Un souffle de péril et de trahison montait de la terre et tombait des feuillages. Les étoiles étaient grandes ouvertes ainsi que des fleurs de flamme. Ma croissance. Il est temps d'oser s'élever et de développer notre ramure. Ainsi, ouvrons-nous aux idées nouvelles et développons notre esprit. Dans son livre « Mindset », Carol Dweck décrit deux sortes d'états d'esprit. L'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit figé. Elle s'est notamment appuyée sur les observations faites auprès d'enfants à qui elle faisait faire des puzzles difficiles pour leur âge. Certains baissaient les bras et se tournaient vers des puzzles plus faciles, ou qu'ils connaissaient bien. D'autres, au contraire, étaient stimulés par le challenge. Nous sommes tous un peu un mélange de ces deux états d'esprit, ou du moins selon les situations. L'état d'esprit de croissance nous permet de nous adapter au monde extérieur, de vouloir progresser, de rester dans un constant apprentissage, de s'émerveiller. Tandis qu'un état d'esprit figé nous laisse nous reposer sur nos lauriers. Il ne nous permet pas de nous remettre en question, par peur de perdre ce que nous avons acquis, par peur de perdre la face, par peur de l'inconnu. Dans le livre était cité John McEnroe, où elle racontait, assidûment, que, lorsqu'il perdait un match, il jetait la faute sur la météo, le garçon de fond de cour, la qualité du terrain. Il refusait souvent de jouer certains matchs contre des joueurs, par peur de perdre. Je lis ce livre car il était conseillé par Tom Bilieu, dont j'aime beaucoup les podcasts. Une des mises en pratique que Tom Bilieu a effectuées à la suite de sa lecture est de renoncer à être intelligent pour être quelqu'un qui a un constant apprentissage. Cela l'a décomplexé de poser des questions, de se taire pour ne pas paraître aussi intelligent que les autres personnes ne pourraient le penser. Ainsi, il peut apprendre et progresser en restant cohérent avec l'image qu'il souhaite avoir de lui-même. Pour illustrer la puissance de l'état d'esprit avec lequel on voit les choses, imaginez-vous dans une salle de classe et le professeur vous appelle au tableau. Dans un état d'esprit figé, vous avez peur, vous souhaitez ne commettre aucune erreur, paraître intelligent aux yeux de la classe et du professeur. Dans un état d'esprit de croissance, vous êtes dans l'optique d'apprendre, tant pis si vous faites des erreurs, le professeur est là pour vous corriger. Et mieux, c'est l'occasion de poser vos questions et d'avoir des réponses particulières à votre façon de penser. De mon côté, j'ai de très mauvais souvenirs de passage au tableau, surtout en classe prépa où toutes les semaines nous avions des cols, où nous étions notés sur notre capacité à réciter les leçons ou à résoudre un problème. Et c'est pourtant à nous qu'il appartient de transformer cette expérience. Les professeurs veulent que nous maîtrisions les apprentissages qu'ils nous transmettent. Leur but n'est pas de nous mettre mal à l'aise, mais que nous profitions de cette occasion de nous interroger sur nos connaissances. C'est très libérateur de le voir ainsi. Dans le livre Grit, l'auteur, Angela Duckworth, propose 4 affirmations afin de voir vers quel état d'esprit vous penchez. Ce sont les suivantes. Votre intelligence est quelque chose de très basique que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas vraiment changer votre degré d'intelligence. Peu importe votre intelligence, vous pouvez toujours la changer un peu. Vous pouvez toujours changer de façon conséquente votre intelligence. Si vous êtes plutôt d'accord avec les deux dernières affirmations, vous êtes dans un état d'esprit de croissance. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et se consolider. Voici quelques petites astuces pour cela. Surveiller son langage intérieur et s'encourager à apprendre et progresser. Par exemple en se disant, à soi ou à ses enfants, « Cela n'a pas marché. Voyons comment approcher cela différemment une prochaine fois, plutôt que « Bon, moi j'ai essayé. » Ou encore dire « Beau travail. Quelle est la chose qui aurait pu être encore mieux ?» plutôt que « Beau travail, quel talent !» Autre chose, voir en les difficultés que vous rencontrez, une façon d'apprendre à les surpasser en utilisant votre créativité. Être persuadé que le cerveau change et qu'il peut toujours apprendre de nouvelles choses, quelles qu'elles soient. S'entourer de gens qui vous inspirent et vous motivent. Alors, laissons-nous pousser des ailes pour avancer sur notre chemin, avec le ciel pour seule limite. Ainsi, notre jeu devient infini. D'ailleurs, le concept de jeu infini est ainsi détaillé. Dans les jeux finis, comme le football ou les échecs, les joueurs sont connus, les règles sont fixées, et il y a un accord sur l'objectif qui terminera le jeu avec la désignation d'un vainqueur. Les jeux infinis, de l'autre côté, peuvent être joués par des joueurs connus ou inconnus. Il n'y a pas de règles exactes et la longueur du jeu est infinie. C'est le cas de l'économie, de la politique et de la vie elle-même. Les personnes jouant à un jeu infini construiront des organisations plus fortes, plus innovantes, plus inspirantes, avec une résilience qui les fera s'épanouir dans un monde changeant. Alors, en regardant vers le ciel, acceptons de jouer à ce jeu infini, de voir plus loin que la ligne d'horizon, de regarder la lune croître et décroître sans fin, à chaque fois différemment et sans vainqueur déclaré. Si ce n'est tout le monde ou peut-être personne, mais juste avec la satisfaction d'avoir fait son chemin, d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Pour jouer à ce jeu infini, voyons au-delà de nos objectifs et concentrons-nous sur les valeurs qui les sous-tendent. Ayons foi en celles-ci, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous escomptions. Et réjouissons-nous que même nos objectifs atteints, nos valeurs, notre grande vision ou l'univers, nous repousserons la ligne d'horizon encore un peu plus loin, avec d'autres étapes, d'autres branches, d'autres possibilités de s'élever dans toutes les directions. Proverbe arménien. En se posant sur la branche, le papillon craint de la briser. Mes peurs. Mais s'élever vers les cieux comporte aussi son lot de dangers. Prenons soin de ne pas nous brûler les ailes à la manière d'Icare. Soyons vigilants et conscients du fait que les branches peuvent rompre à tout instant. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une chute, et fermer les yeux sur cette éventualité pourrait nous être fatal et tuer tous nos rêves. Une expédition vers les plus hautes branches ne se lance jamais la fleur au fusil. Mais acceptons cela de bonne grâce et tirons notre épingle de ce jeu, ou plutôt notre aiguille hors de la botte de foin. Le stoïcisme enjoint de réaliser son prémortem dans le but de se familiariser avec l'idée même de la mort, avec cette possibilité d'être foudroyé. On parle souvent de la visualisation positive, de la loi de l'attraction. Là, nous allons faire un exercice complètement à l'opposé, qui est pourtant très efficace pour retrouver un sentiment de contrôle et de confiance. Pour faire croître notre arbre, ferme et décidé, mais conscient que les branches peuvent tomber à tout moment, en y étant préparé, et en acceptant et embrassant pleinement cette éventualité. Le prémortem consiste à analyser une situation ou un projet, en s'imaginant que les suites sont mauvaises et de voir ce qui s'est mal passé. Cette technique est utilisée dans différents domaines. Avant même qu'un acte médical soit effectué, le médecin se demande ce qui a causé la mort du patient. Avant une opération militaire, le général se pose des questions sur la raison de la défaite. Avant qu'un projet ne soit lancé, le manager se demande ce qui a fait que tout est déraillé. Ainsi, il se prépare à tout ce qui pourrait mal se passer. Si vous vous lancez dans un nouveau projet, qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, que vous ne savez pas vraiment quoi, c'est un excellent exercice. D'abord parce qu'il amène à trouver des solutions aux risques rencontrés. Cela nous amène à bien nous préparer, à tout envisager, sous toutes les coutures. Cela aide aussi d'exprimer ses peurs, de mettre des mots sur ses angoisses. Ensuite, cela apporte un sentiment d'apaisement et de contrôle. Les peurs que l'on étouffe ressortent toujours à un moment ou à un autre. Lorsque l'on les affronte et que l'on regarde tout cela bien en face, la situation paraît toujours moins dramatique. Sénèque pratiquait la pauvreté quelques jours par mois, lors desquels il se satisfaisait du minimum vital. Peu de nourriture, peu de vêtements. Pour se confronter à sa peur du manque et se demander si c'était vraiment la condition qu'il craignait. Enfin, Cela apprend aussi l'humilité. Alors, ne nous mettons pas d'œillères. Envisageons aussi ce qui pourrait mal se passer. Les chutes, les branches qui tombent. Soumettons-nous aux lois de la nature. D'ailleurs, le phénomène d'auto-élagage est tout à fait commun chez les arbres. De lui-même, l'arbre élimine les branches affaiblies et favorise une cicatrisation puis une refermeture de l'écorce. Cela empêche ainsi des pathogènes de s'installer et favorise la croissance d'un tronc exempt de nœuds, doté d'une plus grande résistance mécanique. Nos branches seront hautes, mais elles tomberont peut-être, ou engendreront la mort de celles qui sont plus basses. Mais ainsi préparées, notre cœur sera léger pour grandir vers le sommet, et d'autres branches repousseront. Croyons dans les buts que nous nous sommes fixés. Regardons vers les cieux vers lesquels nous souhaitons nous élever. Tout en sachant que de ces nuages peut tomber la pluie qui abreuvera notre arbre, comme la foudre qui le brûlera. Henri de Monterland. À force d'être anxieux sans que rien n'arrive, le jour où la foudre tombe, on se trouve presque calme. L'éther et Vishuddha. Si un chakra était à rapprocher de cette partie des arbres, ce serait pour moi le chakra de la gorge, Vishuddha. C'est le premier des trois chakras dits supérieurs, reliés au plan spirituel. Ce chakra est associé aux qualités d'écoute et de communication. Il est représenté par une fleur de lotus bleu turquoise à 16 pétales. Ce cinquième chakra est la porte de l'âme. Son élément est l'éther, ce qui symbolise l'expansion et la liberté, comme les branches de notre arbre qui s'élèvent, défiant la gravité, vers le bleu turquoise du ciel. L'éther représente le vide et l'espace. Contrairement aux autres éléments essentiels, il brille plutôt par l'absence de caractéristiques. Il est froid car il manque la chaleur du feu. Il est lumière car il lui manque la densité de la terre. Il est immobile car il lui manque le mouvement de l'air. Il est léger car il lui manque le poids de l'eau. C'est le plus subtil des éléments, celui par lequel tout autre espace nous est accessible. Là où on ne sait plus très bien où se termine la branche et où commence le ciel. C'est un travail d'épure que nous avons à réaliser. On raconte que, lorsque le pape demanda à Michel-Ange le secret de son génie, admiratif de la précision avec laquelle il avait cisaillé les détails de la statue de David, que beaucoup considèrent le plus grand chef-d'œuvre de sculpture de tous les temps, l'artiste répondit « C'est simple, j'ai simplement enlevé ce qui n'était pas David. » Comme le sculpteur, ôtons les couches de marbre superflues qui cachent notre véritable essence, qui taisent notre voix véritable, qui masquent nos véritables odeurs, qui étouffent notre personnalité, qui empêchent nos arbres de grandir. Ôtons ce qui n'est pas nous, ces envies que la société nous prête et fait parfois naître en nous, voiture, maison, diplôme, position sociale, gadget de consommation. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Quels sont nos choix de cœur? Cela passera par une acceptation de vos différences, une reconnaissance de vos qualités propres et la recherche d'une force en vous pour affirmer votre vraie nature et révéler vos rêves. L'éther est aussi intimement lié au son. Mais si le son ne se propage pas dans le vide, c'est dans cet élément qu'il est le plus pur. Simple vibration élémentaire. Alors, créez un espace pour faire le vide dans votre esprit afin de vous écouter. Faites taire ce bavardage intérieur qui pollue votre dialogue interne et va couvrir le bruissement de votre intuition. À la vibration la plus pure, celle qui résonne à votre intérieur profond et n'est audible que par le cœur. Concentrez-vous sur votre chemin et continuez simplement de tracer votre unique parcours. Michel-Ange. J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer. Dessiner mes branches et mes feuilles. Il est temps de voir notre arbre prendre toute son ampleur et toute sa place en lui ajoutant des branches. Voyez sa ramure se dessiner sous vos coups de crayon intuitif. Dans le vide de l'éther, faites résonner et grandir les questions suivantes. Dans quelle direction je souhaite m'épanouir? Qu'est-ce que je peux élaguer? Quelles sont les peurs qui m'empêchent de m'élever? Sur cet arbre, vous dessinerez sans doute spontanément les branches maîtresses, celles qui dérivent du tronc et portent une partie du houppier. On les appelle aussi les branches charpentières. Mais peut-être verrez-vous d'autres types de branches poindre le bout de leur nez, les gourmands, les rameaux qui se développent à partir d'un œil à bois, poussant spontanément sur une partie exposée à la lumière. Les rejets, les nouvelles pousses feuillées apparaissant à la suite d'une cassure naturelle ou d'une coupe. Les rameaux épicormiques, formations apparaissant à la surface de l'arbre et lui servant de moyen de défense pour reconstituer des parties endommagées. Sur ces branches, vous pouvez aussi ajouter des feuilles. Aucune section n'est destinée spécifiquement aux feuilles, le principe étant de les apposer par petites touches ou par feuillage entier à votre arbre, à partir de ces chapitres. Paul Éloire. Les lignes de la main, autant de branches dans le vent tourbillonnant.